CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui, je me trouve avec Robert Pistre, qui va nous parler en fait de nouveaux projets. Donc déjà, bonjour Monsieur Pistre et merci de m'accueillir chez vous.
Bonjour, merci beaucoup. Oui, nous avons au Centre de Recherche du Patrimoine Orientalier, association culturelle qui travaille sur la mémoire depuis maintenant près de 40 ans. Nous avons le souci de récupérer tous les éléments de la mémoire qui sont dans les différentes familles de notre secteur, de la communauté de communes, qui est un peu le champ d'action du CRPR. Ces documents sont d'une part des documents écrits, des lettres, des mémoires, par exemple, nous avons donné des cahiers faits par des soldats de la guerre de 14 qui avaient raconté leur guerre, et on a été très heureux de les publier. Plus récemment, dans une famille d'Angles, il y avait échange de correspondance entre un Cabane de Lacaune et Rabot de Marseille, qui va donner lieu à une publication et à une cérémonie Angles. Voilà, dans les documents écrits, il y a aussi les documents professionnels. Par exemple, André Cabot l'avait récupéré, le dossier du syndicat de la charcuterie depuis le début, et ça nous a permis de faire un livre sur l'histoire de la charcuterie de Lacaune. Ensuite, il y a des livres de comptes de certains artisans. Quand on dépouille ces documents, de découvrir des choses qu'on n'ignorait pas. Je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, que dans les comptes d'un forgeron, j'avais découvert qu'il y avait des clous neige, c'est-à-dire qu'on mettait aux chevaux des clous qui dépassaient du fer à cheval pour éviter de glisser sur la glace. Donc on appelait ça les clous glaces. Donc j'ignorais qu'il y avait des clous glaces. Je sais qu'il y a des pneus neige, mais il y avait pour les chevaux, il y avait des clous glaces. J'ai aussi découvert que on tendait les chevaux à l'entrée de l'hiver. Parce que la nature faisant bien les choses, les chevaux se revêtaient d'un duvet assez épais pour se protéger du froid pendant l'hiver. Mais s'il fallait faire travailler les chevaux pendant l'hiver, ça les gênait. Une personne peut lever son manteau et le cheval non. Donc ce que l'on faisait pour faire travailler les chevaux pendant l'hiver, on tendait les chevaux, mais il fallait qu'à l'étable, il y ait un endroit chaud pour ne pas qu'il meure de froid. Donc par exemple, il y avait un emplacement pour le cheval en haut de table des vaches, donc ce qui fait que le cheval pouvait passer l'hiver sans trop risquer. Ensuite, il y a des documents audiovisuels, par exemple des films 8 mm faits dans les années 60. Alors beaucoup sont uniquement des histoires de famille, c'est-à-dire que on montre le repas de baptême du petit dernier ou du mariage. Mais il y a des fois des documents plus intéressants. Par exemple, quelqu'un avait filmé la fête de Moulin-Mage il y a de ça maintenant plus de 60 ans. Et voilà, donc il y a des choses très intéressantes dans les documents audiovisuels. Puis également, nous sommes à la recherche des outils qui témoignent de l'imagination à l'époque. Si vous voulez, aujourd'hui, les outils sont assez normés, mais à l'époque, c'était chaque forgeron qui fabriquait un outil à sa façon, avec un objectif particulier. Et donc, nous sommes à la recherche de tous ces témoins du passé pour en faire un usage de façon à ce que nous ayons une plus grande fierté collective de notre passé. Et là, je précise, puisque du pourquoi je m'intéresse au patrimoine, ce n'est pas que je souhaite qu'on revienne à cette époque-là. Moi-même, quand j'étais jeune, je devais lier des gerbes à la main avec plein de caoutchouc et de roses. Et c'est pour moi un souvenir abominable et je ne souhaite pas y revenir. Mais je m'intéresse au passé parce que je suis admiratif de la façon dont ils arrivaient à se débrouiller avec rien. Ça s'appelle ça le bias. C'est, voilà.
Alors juste pour revenir à la collecte donc des documents, des objets, vous l'avez dit, de l'audiovisuel, si finalement on a ça dans un placard, mais qu'on ne sait pas s'il y a vraiment une valeur, parce que vous disiez par exemple avec, pour le forgeron c'était des livres de comptes, donc ça peut paraître finalement inintéressant, est-ce que quand même on prend contact avec vous, avec le CRPR, et on verra bien?
Et ça, vous prenez contact avec moi, je donne mon numéro de téléphone, 06 07 37 11 69, ou bien mon adresse mail, c'est robertpistre@orange.fr.
Et après, ces documents, finalement, on vous les prête, vous les rendez, comment ça se passe?
Oui, on ne tient pas à les récupérer pour nous, on tient à les exploiter, et donc on voit avec la personne concernée ce qu'il souhaite faire, donc soit la famille dit ces choses-là, au fond, mes enfants n'en ont rien à faire, et donc ça va partir dans une poubelle et on vous le donne volontiers, soit la famille y tient et on en prend connaissance, on en prend une copie, et puis voilà. Mais c'est surtout la connaissance, moi, qui m'intéresse, c'est pas récupérer des documents en tant que tel.
CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui dans le mag, nous sommes avec Robert Pistre. Robert Pistre qui nous reçoit chez lui, on l'en remercie. C'est la seconde partie de cette émission qui est consacrée aujourd'hui à la collecte de mémoire, puisqu'en fait le Centre de Recherche du Patrimoine de Rueil-Montagnier et Robert Pistre souhaitent collecter et toujours collecter des documents pour mieux connaître en fait notre histoire, notre patrimoine, des documents, que ça soit des documents papier, ça peut être aussi des documents audiovisuels, notamment des films qui pourraient représenter des scènes de vie courantes, on va dire, et puis aussi des outils. Donc nous en parlons avec Robert Pistre, n'hésitez pas à aller réécouter la première partie de l'émission. Et alors on le disait, les documents papier, ça peut être des documents qui peuvent paraître à la base un peu insignifiants, comme on l'a dit, des relevés de comptes, mais dans lesquels on va retrouver une part de l'histoire. C'est bien ça, Monsieur Pistre, que l'on comprenne bien?
C'est-à-dire de voir un peu tout ce qu'on faisait faire au forgeron. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, ils écrivaient, ils ne maîtrisaient pas très bien la langue française, et ils écrivaient dans un français qui était du patois francisé. Par exemple, le forgeron, j'ai mis du temps à... Il avait fait une kerbe d'ours. Alors, la kerbe, c'est l'anse, et l'ours, c'est la marmite. Donc, il avait fait une anse de marmite. Donc, heureusement que je connais la langue d'oc et que donc je décrypte que ce qu'est une kerbe d'ours. Sinon, des gens d'aujourd'hui, ils ne sauraient pas décrypter. C'était très intéressant de voir comment ils écrivaient un peu comme ils pouvaient, quoi.
Et aussi, c'est intéressant avec ces documents, je crois, de voir aussi finalement des gens qui avaient des origines ici, où sont-ils partis, et faire un peu un lien aussi avec finalement notre société moderne, quoi.
Ce qui est intéressant dans cette collecte, et c'est pour ça que je lance un appel aussi à ceux qui sont des résidents secondaires, ceux qui ont une attache avec le pays, parce que il y a des archives familiales de gens au loin, des choses qui concernent notre mémoire locale. Et le document qui m'a le plus estomaqué, c'est une personne de Villefranche de Rouergue qui avait dans ses archives un catéchisme en langue d'oc du temps de Louis XVI. Et donc, c'est un document tout à fait... Alors, ce qui est intéressant dans ce catéchisme du temps de Louis XVI, c'est qu'on disait aux gens ce qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on dit qu'il ne fallait pas qu'il fasse, c'est qu'il le faisait, parce que sinon, on ne dirait pas qu'il ne fallait pas le faire, si vous voulez. Et donc, c'est aussi une mémoire indirecte de ce que faisaient les... Par exemple, recommander aux jeunes filles de se méfier des jeunes nobles.
Pour revenir aussi aux documents audiovisuels, donc là, c'est beaucoup plus récent. Vous le disiez, on peut imaginer des fêtes de village, peut-être aussi des inaugurations d'entreprises ou des manifestations, des choses comme ça qui avaient lieu dans le coin.
Ou des scènes de la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, ça peut être une scène de battage, vous voyez. Ça peut être... Voilà, donc c'est un peu ces documents-là qui sont pour nous extrêmement intéressants. Et, par exemple, si les gens ont un film 8 mm, ce que nous leur proposons, c'est qu'ils nous le prêtent, Nous, on le fait numériser, on leur rend leur film 8 mm et bénévolement une copie du numérique. Parce que pour passer ces films 8 mm, il faut des appareils qui n'existent plus ou qui ont du mal à fonctionner, tandis qu'avec le numérique, on met dans l'ordinateur et c'est bon.
Oui, donc on peut même imaginer que finalement, peut-être on retrouve des films chez soi, qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a dessus et on n'a plus la possibilité de les lire. Donc on peut se dire, bon, ben, mon grand-père, mon arrière-grand-père filmait des choses voilà, de la vie d'un village. Et voilà, à ce moment-là, vous le transmettre et vous allez regarder si c'est intéressant ou pas.
Voilà, et donc encore une fois, si vous avez des éléments, n'hésitez pas à me contacter. Je peux venir vous voir et faire une estimation de l'intérêt des documents que vous avez et puis voir si c'est susceptible de nous intéresser parce que bon, il y a des documents que nous avons déjà. Enfin, c'est...
Juste pour terminer, on va dire un petit peu les lieux sur lesquels vous recherchez. C'est vraiment les Monts de la Cône, les Hauts Cantons, le Proche Aveyron, le Proche Hérault.
Si vous voulez, ça correspond grosso modo à la communauté des communes des Monts de la Cône, là, actuelle, communauté Monts de la Cône et des montagnes du Haut-Languedoc, puisque, si vous voulez, c'était une zone qui avait une unité humaine parfaite. Moi, si vous voulez, si je remonte à mon arbre généalogique, j'ai des ancêtres à Nage, des ancêtres à Murat, des ancêtres à Saint-Amand-de-Mounis, vers la Croix-de-Mounis, j'ai des ancêtres à la Salvetat, parce que les gens se mariaient entre eux sur ce plateau et voilà. Et d'ailleurs, c'était les mêmes conditions de vie, si vous voulez. C'est trois facteurs qui ont conditionné la vie de nos ancêtres. Ces trois facteurs étaient les suivants. D'une part, l'altitude avec un froid hiver assez conséquent. Deuxièmement, c'était un sol qui n'est pas très riche pour la culture, donc il fallait qu'ils triment et puis qu'ils fassent preuve de biaise. Et troisièmement, la solidarité, parce qu'on ne s'en sortait que si on était solidaire. Aujourd'hui, il y a la Sécu, il y a le RSA, il y a tout ça. Mais à l'époque, si on était mal, il fallait compter sur les voisins. Donc il y avait une solidarité humaine particulièrement forte et c'est un des points clés aussi. Les gens sont heureux de se retrouver, de faire des choses ensemble. Et cette pauvreté de nos ancêtres est quelque chose d'extrêmement important parce que quand on est pauvre, on est obligé d'être plus malin, de s'entendre, de tout ça.
Je vous remercie vraiment, Monsieur Pistre, de m'avoir reçu. Donc, si vous avez des documents, n'hésitez pas à prendre contact avec la radio. On vous donnera toutes les coordonnées de Monsieur Pistre. Il n'y a aucun problème. Et puis, juste un dernier mot. On n'oublie pas aussi que vous êtes quand même le fondateur de la Gazette des Amoureux des Monts de la Cône, la Gazette des Monts de la Cône. Et on va dire un mot parce que je crois qu'il y a la dernière qui est sortie il n'y a pas longtemps.
Il y a une qui est sortie mardi de cette semaine. Ça portait sur la richesse de la nature. Donc il y a en particulier M. Philippe Durand qui est de Vienne-Mur et qui est le président de la Société Tarnaise de Sciences Naturelles dont on a fait un état de toutes les plantes dans la nature qui se mangent en salade. Il y a aussi la recette avec les repoussous, c'était une tradition locale, et les repoussous et l'omelette aux repoussous. Il y a aussi j'ai fait l'article sur les arbres à symbolique religieuse. Si vous voyez, c'est, les gens ne savent pas, par exemple, pourquoi il y avait une aubépine près des maisons. Parce que l'aubépine fait des fleurs blanches. Dans l'Antiquité romaine, l'aubépine était la fleur de la déesse Maya qui a donné son nom au mois de mai. C'était la déesse de la pureté. Et ça a été christianisé en le mois de mai et le mois de Marie. Et les fleurs blanches amènent la protection de la Sainte Vierge sur la maison voisine.
Bon, donc à découvrir dans la Gazette des Amoureux des Monts de la Cône. Et puis on vous mettra tout ça, bien sûr, sur le site internet de CFM. Merci beaucoup.